Cours de métaphysique du 19 janvier 1984, la personne par le père Marie-Dominique Philippe Rimond.
Pourriez-vous remettre en parallèle la définition de la personne de Boèce et la définition de la personne d'Occam, pour qu'on voit bien comment les deux perspectives altère notre regard sur la personne. Très bien. C'est dans cette topique historique que nous essayons de voir. Hein. Vous voyez bien que le but de cette topique historique, c'est de voir comment, progressivement, le point de vue métaphysique disparaît. Et on essaie de voir, on va voir, c'est assez net, c'est assez facile à faire, et je crois que c'est intéressant, parce qu'il faut quand même essayer de comprendre dans quel contexte historique nous sommes aujourd'hui et pourquoi le point de vue psychologique a pris une telle importance quand il s'agit de la personne. Aujourd'hui, au point de vue de la personne, qu'est-ce qu'on interroge? C'est les psychologues. C'est très bien, les psychologues ont quelque chose à dire, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas se mettre en opposition vis-à-vis des psychologues, ni vis-à-vis des sociologues. Ils ont quelque chose à dire, il y a un trou, les philosophes sont plus là. C'est normal. Ils ont relevé la chose et ils l'ont fait comme ils le peuvent, avec leur méthode propre. Alors, il me semble important de voir. La définition de Boèce est une définition, comme toujours Boèce. Boèce est un philosophe chrétien. Au fond, c'est le premier philosophe chrétien. Mais c'est un philosophe qui n'a pas beaucoup d'originalité. C'est un philosophe qui s'appuie sur Aristote, qu'il a traduit Aristote, il a fait passer les livres logiques d'Aristote dans le monde latin. Et il donne cette définition qui va jouer un rôle très important, comme toujours des définitions, parce que ça passe à travers tout. Cette définition, elle s'appuie sur le point de vue de la philosophie d'Aristote, mais toujours avec cet équivoque entre le point de vue logique et le point de vue métaphysique. C'est un fait, c'est que la logique d'Aristote est passée dans le monde latin avant sa métaphysique. Et la métaphysique d'Aristote est passée dans le monde latin par Avicenne, c'est-à-dire par le néoplatonisme. Alors vous voyez qu'il y a deux choses qui montrent la difficulté pour nous d'essayer de comprendre ce qu'est la personne au niveau métaphysique. C'est d'une part la logique et d'autre part le néoplatonisme. C'est un peu la mixture des deux. La Boèce n'est pas néoplatonicien, pas du tout. C'est le point de vue de la logique. Alors la définition de Boèce, c'est la savoir, substance individuelle d'une nature rationnelle. Alors, vous avez substance individuelle d'une nature rationnelle. Il y avait substance et nature. Et on a l'impression que cocktail substance-nature, chez Boèce, il sent pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Substance individuelle, ça, oui, c'est l'individu. L'individu au niveau de la substance pris au niveau catégorique, c'est la substance prise au point de vue catégorique, c'est-à-dire le sujet, Pierre. La personne, c'est Pierre. D'une nature rationnelle, pour bien montrer que l'esprit apparaît. Alors, il y a deux choses qui me semblent importantes à souligner dans Boèce. C'est l'aspect du sujet individuel. Ceux qui connaissent bien Aristote savent que c'est la substance première, le suppôt, la subsistance. C'est ça le point de vue de la personne. C'est la substance première selon les catégories. Substance individuelle, pour bien montrer que ce n'est pas la substance seconde, c'est la substance qui existe. Alors, comme de fait, le sujet individuel peut exister dans 36 réalités, la vache est une substance individuelle. Bien évident. Il suffit de la toucher pour savoir qu'elle est une substance individuelle. Elle est une substance individuelle, mais n'est pas dans la nature rationnelle. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une personne. La personne, c'est une substance individuelle dans une nature rationnelle. Nature rationnelle, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui l'esprit. Vous voyez qu'il y a donc un petit cocktail assez particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la personne, c'est toujours un petit cocktail. Parce que c'est un tout. Alors on s'approche comme on peut. C'est pas un principe, c'est un tout, c'est une manière d'exister. Une manière d'exister individuelle, donc une certaine autonomie. Seule la substance individuelle a une autonomie, mais une autonomie particulière, une autonomie qui implique l'esprit, nature rationnelle. Au fond, c'est les deux choses que Boise a saisies. C'est pas si bête, hein? Parce que c'est assez vrai que c'est l'autonomie à l'intérieur de l'esprit. C'est comme ça qu'on traduirait Boèce aujourd'hui en faisant sortir un peu de son cadre logique des définitions. Les gens aiment les définitions. On retrouve ça aujourd'hui. Hein, parce que les gens aiment les définitions. Boèce donne une définition assez curieuse, substance individuelle d'une nature rationnelle. Donc, le point de vue de l'autonomie, du point de vue de l'esprit, nature rationnelle. Voilà le point de vue de Boèce. Alors, on me demande donc, la question, auriez-vous remettre le parallèle de définition de la personne de Boèce à la définition d'Occam? Alors nous avions vu qu'Occam, lui, supprime la métaphysique. Boèce ne la supprime pas, il ne la connaît pas. Donc, Boèce est naïf. C'est la naïveté, Boèce. C'est merveilleux, du reste. Parce que c'est au niveau des catégories. Alors les catégories, c'est pré-métaphysique, c'est pré-logique. C'est plus proche de la métaphysique que la logique d'Occam, beaucoup plus. Quand il dit substance individuelle, je dis les catégories, je ne dis pas que c'est de la métaphysique, mais au fond, pour Boèce, ça représente quelque chose de réel. C'est pas du tout au niveau logique. Les catégories chez Boèce, c'est pas du tout logique. Et c'est d'une nature rationnelle pour montrer la réalité qui subsiste dans l'esprit. Donc, c'est naïf, dans le sens où la distinction entre logique et métaphysique n'est pas faite. C'est ça que j'appelle la naïveté philosophique. C'est quand la distinction entre logique et métaphysique n'est pas faite. Donc on est en face d'une période, c'est vrai la période de Boèce, une période de recherche où les distinctions ne sont pas faites. Tandis que chez Occam, il vient après saint Thomas. Saint Thomas a mûri terriblement le problème. Je crois que c'est ça qui explique les fureurs contre saint Thomas. C'est vraiment, les gens ont de la rage contre saint Thomas. Faut bien le dire. Pourquoi? Parce que saint Thomas a mûri les questions d'une manière très très forte et peut-être que l'humanité est incapable de comprendre. C'est vrai, c'est, je crois, le propre d'un génie, c'est qu'il met en colère les gens. Parce que les gens ne peuvent pas le suivre. Saint Thomas a mûri énormément la question en distinguant le point de vue métaphysique du point de vue logique. À partir de Saint Thomas, on ne peut plus rester dans la naïveté. Tandis qu'avec Boèce, avec Augustin, on peut rester dans la naïveté. Avec les pères grecs, on peut rester dans la naïveté. C'est pour ça qu'on aime tellement les pères grecs aujourd'hui. Parce qu'on aime de retourner au berceau. Alors on aime de retourner dans cette naïveté. C'est très beau, mais c'est magnifique. C'est merveilleux. Il faut les aimer. Mais il faut comprendre que le retour au père grec, qui se fait aujourd'hui tout le temps, hein, la grande astuce chez les dominicains aujourd'hui, c'est de retourner au père grec. Ça, c'est... Mais l'avantage du père grec, c'est que vous pouvez mettre entre parenthèses simplement. Merveilleux. Alors vous retournez à quelque chose qui fait que c'est de la logique, c'est de la métaphysique, c'est de la mystique, c'est tout ce que vous voulez. C'est merveilleux du côté des pères grecs. Je crois qu'il faut sentir ça. Tout ce qui est dans l'ordre de la montée. C'est ça que j'appelle les pères grecs et les pères latins. Saint Thomas se trouve à un sommet. Sommet difficile à comprendre. Difficile à saisir. Alors, quand on n'accepte pas le sommet et qu'on n'est pas prêt, parce qu'après le sommet, il n'y a qu'une seule situation possible. Vous êtes sur le haut plateau. C'est pas commun quand on n'a pas compris. Alors, heureux Grégor. Heureux Grégor. La difficulté d'être après quelqu'un qui a fait quelque chose de très grand, il a vu la distinction entre la logique et la métaphysique. Je crois que c'est ça, le point de vue le plus grand, simplement. Il a vu la distinction entre la logique et la métaphysique, il a montré que l'éthique n'était pas la métaphysique. Il a fait cette distinction très grande entre l'être de raison. Et dans l'être réel, il a montré la distinction entre l'être et le bien. Il a montré qu'entre l'être et le bien, il y avait cette distinction, c'est que l'être était premier dans l'ordre de l'intelligibilité et que le bien était premier dans l'ordre pratique. Et donc, l'être ne supprime pas le bien et le bien ne supprime pas l'être. Et que nous sommes obligés, étant donné la complexité de l'être humain, d'accepter les trois, l'être de raison, l'être réel, qui est l'être, qui est infini, et le bien. Vous ne pouvez pas ramener ça à l'unité. Vous êtes obligés d'accepter qu'il y a une distinction entre les trois. L'être de raison, l'être réel, au point de vue subsistance et au point de vue du bien. Le bien, seul l'esprit le saisit, et l'être aussi. La philosophie première. Donc, saint Thomas dégage, dévoile la philosophie première de la logique, et il montre que la philosophie première s'achève dans une éthique. L'archevêque du bien. Ce qui est important pour nous, c'est l'archevêque du bien. C'est, si vous êtes métaphysique, si vous avez découvert l'être et que vous ne faites rien, vous êtes le plus misérable de l'être. Hein. C'est évident. C'est le bien qui est important dans notre vie. Et donc, c'est l'éthique qui, dans l'ordre pratique, passe devant. Parce que si vous séparez les deux, vous avez un danger énorme. Mais une métaphysique séparée de l'être de raison, c'est déjà très beau, mais la métaphysique séparée du bien, vous restez dans une cérébralisation, une super cérébralisation. C'est les intellectuels qui ne fichent rien, vous voyez ? Alors c'est ce qui laisse le péril, c'est terrible. Et c'est très vrai qu'une fois qu'on fait la distinction, on risque d'en faire la séparation. Voir toute distinction. Et c'est comme ça que la plupart du temps on s'oppose à saint Thomas. C'est que saint Thomas a fait la distinction, il n'a pas fait la séparation. Pour saint Thomas, on ne peut pas séparer l'être et le bien. C'est impossible. Séparer les deux, c'est la pire des choses. On doit les distinguer. Et tout progrès dans la connaissance de l'être doit conduire dans une connaissance plus grande de la fin, du bien. Vous comprenez que le bien nous permet de découvrir la finalité. Tandis que l'être nous permet de découvrir l'autonomie. Et on sera toujours les deux aspects qui seront liés dans la personne humaine. Une personne humaine, c'est une personne qui a de l'autonomie au point de vue métaphysique, et qui est parfaitement finalisée. Et plus elle est autonome, plus elle est finalisée. Et c'est ce que saint Thomas lui montrera, en montrant que, de fait, la personne implique le point de vue d'autonomie de la substance. Alors, il va plus loin que Boèce parce qu'il réintroduit un point de vue métaphysique. Et le point de vue de l'esprit, c'est la finalité. Et il va plus loin que Boèce parce qu'il saisit bien que l'esprit, c'est la finalité. Un être, une personne humaine, doit être parfaitement autonome et parfaitement finalisée. Et plus elle est finalisée, plus elle est autonome, plus elle est autonome, plus elle doit être finalisée. Je crois que c'est cela que saint Thomas a saisi au point de vue de la personne. Donc, il a dépassé Boès. Il a été plus loin. C'est plus difficile de maintenir ça. Que fait Occam? Il ne saisit plus la métaphysique. Alors, il retrouve le point de vue de Boès, mais au point de vue logique. C'est une retombée. Une retombée par rapport à saint Thomas. Alors, il retrouve Boès au point de vue logique. Qu'est-ce que c'est qu'au point de vue logique? Ah, l'individu. L'individu, il n'a plus de substance pour Occam. C'est un agrégat d'accidents. Un agrégat d'accident. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus de finalité. La finalité n'existe plus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un personne? C'est un individu qui a son originalité propre par rapport aux autres. Il y avait quelque chose de particulier. Mais à fond, il n'y a plus de substance, plus d'autonomie, plus de finalité. Je crois que c'est ça le drame de Dantin. C'est que vous avez supprimé l'enracinement métaphysique dans l'autonomie et vous avez supprimé la finalité. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement à la personne, c'est un fait. C'est du positivisme. C'est le positivisme le plus radical. C'est que la personne, c'est le résultat voulu. C'est juste au point de vue résultat. Si vous essayez de saisir maintenant quelle est votre personnalité, hein, faites un petit examen de conscience occamien, n'est-ce pas? Donc, en supprimant le point de vue de la métaphysique et supprimant la finalité, qu'est-ce qui reste? Le résultat. Le résultat, vous êtes une personne, c'est bien évident, vous êtes une personne. Vous êtes une personne en fonction de toutes vos luttes. Il y a un résultat. Ce n'est pas finalisé. Il y a un résultat, l'individu, vous avez acquis telle décoration en fonction de tel combat. Vous avez été glorieux en fonction de tel combat. Vous êtes donc, vous êtes. C'est parti de personne, ça. Il y a eu des décorations. C'est des accidents, les décorations. Hein, c'est des accidents. C'est pas la finalité. Alors, c'est la personne qui se replie sur elle-même. Vous voyez, c'est le phénomène du repliement. C'est le phénomène du repliement, doublement repliement sur l'autonomie et sur la finalité. Il vient après saint Thomas et c'est, je dirais tout simplement, le phénomène de saisir le résultat de chacun d'entre nous, le fait qu'il y a des réalités qui sont des noyaux d'attribution. Un sujet qui est un noyau d'attribution. Votre moi, c'est un noyau d'attribution parce que vous avez telle possibilité, telle capacité, vous avez, et ça s'est montré puisque vous avez fait quelque chose, vous avez une certaine autonomie, c'est bien évident, mais l'autonomie se distingue, ne se prendra plus comme un principe fondamental et substantiel, mais l'autonomie se prendra en opposition des autres. Vous êtes capable de vous séparer des autres, et vous êtes séparé des autres, vous êtes distinct des autres, et la preuve, c'est que vous avez telle qualité que les autres n'ont pas. Donc là, vous vous distinguez. Et vous avez le résultat de la vie. De la finalité, c'est qu'il y a eu en vous telle ou telle manière de pâtir et d'agir. C'est ça que c'est très décevant, la personne chez Occam. Hein. C'est très décevant, parce que c'est uniquement le sujet, le suppôt qui, de fait, est le lieu de réunion de toute une série d'accidents. C'est le cadavre de la personne. Je crois qu'on pourrait dire ça. C'est cadavérique. C'est le cadavre de la personne. Et c'est vrai, la logique à ce point de vue-là, quand la logique définit la personne, c'est le cadavre de la métaphysique de la personne. Vous ne voyez que les résultats. Un cadavre, c'est les résultats. Hein. Au moment même où il est cadavre, vous voyez, il n'a plus de finalité, il n'a plus d'autonomie, mais tout y est. Tous les cheveux sont encore debout, toutes les dents demeurent encore, le nez demeure encore, il ne faut pas attendre le lendemain. C'est pour ça qu'au moment d'Octave, ça y est encore. Il y a une figura qui demeure. Mais le lendemain, il n'y a même plus de figura, c'est ce qu'on voit le lendemain. Le lendemain, c'est Suarez, hein. C'est évident. Là, c'est déjà le cadavre. Yann fait tête. Hein. Ne vous approchez pas trop. Et c'est d'autant plus simple que Suarez va essayer de donner une chose métaphysique. C'est très intéressant de voir ça, parce que je crois l'âme est perdue. Il n'y a plus d'âme chez Occam. Il n'y a plus de logique. Alors, s'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de personne. Saint Thomas avait compris que le point de vue de l'esprit, c'était l'âme spirituelle. Et l'âme spirituelle faisait le lien entre la substance et l'esprit. Et au fond, c'est ça qui faisait la personne, c'est qu'il a compris que l'âme spirituelle, c'était l'autonomie et la finalité. Vous supprimez l'âme, ça ne veut plus que l'âme. Je crois que l'image est vraie. Vous voyez, regardez, on ne peut pas trop le dire, mais en cours ici, on peut le dire. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus que le cadavre de la personne. Et ça fait très bien comprendre comment, d'une certaine manière, au niveau descriptif, tout y est. Quand vous décrivez un cadavre au moment même où l'âme est séparée, tout y est. Au point de vue d'un regard positiviste, tout y est. Quelle différence y a-t-il ? La seule différence, c'est qu'il ne bouge plus. Il n'est plus fidèle. Il ne parle plus. Mais tout y est. Alors, c'est le cadavre de la personne. Vous avez démoli l'âme. Et Suarez, alors, continue un peu la même chose. Tout en ayant, ne l'oublions pas, on peut dire que Suarez cherche à dépasser la perspective purement logique qui était celle d'Occam, en découvrant dans la ratio subsistendi de la nature spirituelle quelque chose de propre à la personne, qui la distingue du sup. Cela lui permet de définir la personne sans regarder explicitement la nature spirituelle, dans cela même, il demeure sous l'influence d'Occam. Il essaie de réanimer le cadavre, on pourrait dire ça. On pourrait dire qu'il essaie de réanimer le cadavre, de lui redonner vie, par le point de vue de la ratio subsistendi. C'est très cru. Alors on met des échafaudages pour que ça tienne. Ça demeure. On arrête les dégâts, si vous voulez. C'est arrêter les dégâts. Mais c'est pas retrouver la source de la personne. La ratio subsistendi, qui distingue du suppos. C'est très curieux. Hein. Suarez est un moment très très particulier, c'est spécial. Bon, je n'insiste pas plus. Maintenant, nous allons voir les dégâts, si vous voulez. La personne est née dans un climat théologique. La réflexion sur la personne s'est faite chez les théologiens. Ça, on ne peut pas nier. Mais chez les théologiens, vous voyez bien les trois moments de la personne. Boëls, ici dans la montée, il est encore assez bas. Et dans la montée. Le sommet, Saint Thomas, et la dégringolade, Occam. Et Suarez essaie d'arrêter la dégringolade. Sans remonter au sommet. Un petit chêne, c'est assez bien ça. Assez bien, c'est comme ça. C'est la grande montée, on est un peu dans la confusion, donc la personne, c'est des tas d'éléments, des tas de choses. C'est difficile, mais c'est un tout. Il y a toujours cette vision du tout, la personne. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on peut avoir une vision cadavérique du tout. C'est vrai qu'un cadavre est un tout. Alors, vous pouvez arrêter la dégradation en mettant le tout dans un cercueil. La dégradation. Alors, c'est Suarez. Vous mettez le tout dans un cercueil. La ratio subsistante. Alors, c'est le cercueil pour arrêter la dégradation. Si vous avez tué l'âme, c'est plus que l'âme. Vous voyez bien la montée de Saint Thomas. Vraiment, la perspective de Saint Thomas sur la personne est très grande. Et là, il y a quelque chose de très original de Saint Thomas. Très original, il a saisi qu'il y avait quelque chose de très, très beau, vous voyez, parce qu'au fond, vous avez bien l'être et le bien. Vous avez bien l'esprit qui est vraiment le bien, l'être dans son autonomie fondamentale. Enfin, vous avez la métaphysique et l'éthique, si vous voulez. Et c'est la métaphysique et l'éthique qui réunissent la personne. Je ne peux pas définir la personne uniquement au niveau métaphysique, je la définis au niveau métaphysique et au niveau éthique. Il y a les deux. Et c'est l'union. Nous devrons rajouter la créativité. Là, c'est Saint-Amand. C'est la limite de Saint-Amand. Il faut le reconnaître. Il est trop théologien, pas assez philosophe dans sa définition de la personne. Alors, trop théologien dans le sens qu'il ramène tout à l'éthique, à une éthique supérieure, super-éthique, qui est une éthique chrétienne, qui est une éthique de contemplation, si vous voulez, mais c'est quand même une éthique. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la définition de la personne de Saint-Amand, c'est le point de vue du sanctuaire. Et je crois que ça, c'est grave. Parce que vous allez voir que c'est là où on va s'attraper. En dehors. Parce que du côté métaphysique, c'est merveilleux. Du côté éthique, c'est merveilleux. Mais est-ce que la personne humaine, au niveau philosophique, peut-elle se définir uniquement être et bien? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième dimension? Que certainement n'a pas noté. Une troisième dimension. Est-ce que l'esprit n'a pas une troisième dimension? Est-ce que l'esprit n'a pas une troisième dimension? C'est-à-dire la dimension du fractionnement. La dimension de dominer l'univers. Je crois. Personnellement, c'est là où je mettrais, vous voyez, la limite. La limite de la personne chez saint Thomas. Parce qu'il reste trop théologien. En tant que théologien, je ne peux pas lui. Je peux bien dire, bien que je crois que la théologie n'a pas tenu assez compte du factuel. Alors, n'ayant pas tenu assez compte du factuel, vous comprenez quand toute l'idéologie du factuel s'est développée, les théologiens étaient impuissants. Quand vous regardez la théologie du travail du Péchenu, vous voyez qu'il prend les éléments du marxisme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de philosophie du travail. N'ayant pas de philosophie du travail, il est nécessairement obligé de prendre des éléments du marxisme. Alors maintenant, voyons, si vous voulez, la dégradation, la laïcisation de la personne. Comment va se faire cette réflexion sur la personne au niveau philosophique, indépendant d'une philosophie qui veut retrouver son autonomie, donc d'une philosophie qui, d'une certaine manière, s'oppose à la théologie. Vous avez Descartes. Chez Descartes, le problème de la personne n'est pas explicité. C'est intéressant de voir ça. Vous voyez, c'est très curieux. Voilà toute la différence entre Descartes et nous. C'est que le problème de la personne est explicite maintenant dans la philosophie. On ne peut plus faire une philosophie sans faire une philosophie de la personne. C'est absolument impossible. Tandis que chez Descartes, il n'est pas explicité. La personne se ramène en réalité à la substance pensante, saisie dans le cogito. Je crois qu'on peut le dire, ça. Mon essence, c'est de Descartes, hein, c'est de Descartes. Mon essence consiste en cela seul que je suis une chose qui pense, ou une substance dont tous les sens ou la nature n'est que de penser. Voilà mon essence. Je pense. Dans cette substance, ni le corps, ni les passions ne sont intégrés. Ceci, c'est dans la sixième méditation. Dans cette substance, ni le corps, ni les passions ne sont intégrés. Et si Descartes affirme l'union substantielle de l'âme et du corps, n'est-ce pas plus en raison de la tradition chrétienne et de la théologie qu'en raison d'une position proprement philosophique? Je crois qu'en raison d'une position purement philosophique, le corps est de trop. Position platonicienne. C'est du reste pour cela qu'il ne peut en rendre compte. Donc ça, c'est la première position, vous voyez, le repli sur le cogito. Et on peut dire vraiment que c'est le repli sur le cogito. Au fond, la personne est vue dans la possibilité d'une réflexion. La personne, c'est ce qui peut réfléchir. Je prends toujours l'exemple, pour que vous ayez une petite image, d'un château fort qui se replie en levant les ponts. On se replie sur soi. La science prend le pas sur la philosophie. Et la philosophie a peur de la science, alors on se replie. La philosophie à partir de Descartes est une philosophie de repliement. C'est une philosophie d'une réflexion. Et alors on le ressent tout de suite dans le point de vue de la personne humaine. Si vous regardez Leibniz dans la Théodicée, dans la Théodicée, Leibniz rappellera que, en dépit de l'opinion des philosophes de l'école, qui croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme, Leibniz dit ceci: depuis qu'on a bien considéré que la pensée est la masse étendue, c'est bien Descartes, hein? Donc depuis qu'on a bien considéré que la pensée et la masse étendue n'ont aucune liaison ensemble, et que ce sont des créatures qui diffèrent, auto-générées. Plusieurs modernes ont reconnu qu'il n'y a aucune communication physique entre l'âme et le corps, quoique la communication métaphysique subsiste toujours, qui fait que l'âme et le corps composent un même suppôt, ou ce qu'on appelle personne. C'est très significatif. Dans la perspective de Descartes. Voilà ce que c'est. Alors, vous voyez cette chose très curieuse. Aucune communication physique, mais une communication métaphysique. Autrement dit, la métaphysique est complètement coupée de la physique. Alors, il y a une communication métaphysique, on doit bien le dire, en raison de la tradition chrétienne. Et je crois que c'est en raison de la tradition chrétienne qu'on dit qu'il y a l'unité entre les deux. Mais philosophiquement, c'est une séparation. Enfin, ceci va nous amener, je crois, en faisant cette coupure, hein, entre le cogito substance pensante, le cogito égale substance pensante, et la masse quantitative, c'est-à-dire le corps. Il y a non seulement une distinction, mais je dirais qu'il y a une séparation. Vous avez deux substances, la substance quantitative et la substance pensante. S'il y a deux substances, il y a donc deux restes. Qui restent collés métaphysiquement. Je ne sais pas trop comment, mais ils sont collés métaphysiquement. Métaphysiquement, il y a l'unité. Comment? Je n'en sais rien. Puisque physiquement, il y a une séparation. Il y a deux substances. C'est ce que dit Leibniz par rapport à Descartes. C'est intéressant comme jugement de Leibniz. Vous savez bien ce qu'on a dit. On a dit que Leibniz était le dernier scolastique. Ce qui est vrai, on a dit du langage. C'est très vrai. Leibniz reste encore, on ne peut pas comprendre Leibniz si on n'a pas fait de métaphysique. Comme on ne peut pas comprendre Descartes s'il n'y a pas de métaphysique. C'est absolument impossible. Il disait le lexicon de Gilson, il le montre admirablement. Tous les mots de Descartes sont des mots scolastiques. Mais il donne à tous ces mots une nouvelle signification. C'est en ça qu'il est révolutionnaire. Il emploie les mêmes mots et il leur donne une signification nouvelle. Et la limite continue d'employer le langage scolastique en prenant une signification nouvelle. Et c'est le cheval de Troie scolastique, n'est-ce pas, qui pénètre dans la ville avec une nouvelle signification en gardant les mêmes mots. Il a le même habit. La même coupe. Mais ça a une signification tout à fait différente. L'habit monastique continue, mais la signification est changée. C'est très significatif, ça. Alors, on va découvrir à partir de là la nouvelle conception de la personne. J'ai dit, Descartes n'a pas donné explicitement une philosophie de la personne. Mais sa philosophie est une philosophie réflexive. À partir de là, je comprends comment progressivement la personne va se définir par la conscience. Et vous savez bien, dans tout le grand débat sur l'avortement, ça a été le point d'impact. Si la personne se définit par la conscience, il est bien évident que l'embryon n'a pas conscience. Donc il n'est pas une personne. Et c'est intéressant de voir que Descartes joue ce rôle, vous voyez, de médiation. Je ne dis pas que Descartes a défini la personne par la substance, par la conscience. Mais tous les éléments y sont, puisque c'est une attitude réflexive d'une substance pensante. Et la substance pensante, hein, le cogito, la substance pensante, elle ne peut être que la conscience. Ça ne peut pas être autrement. Réduite implicitement chez Descartes à la substance pensante, la personne chez Locke sera définie uniquement par la conscience et non plus par la substance. Cogito, donc substance pensante, ça c'est la substance. La substance, c'est le dernier reste de la scolastique. Hein, c'est la substance. Qu'est-ce qui demeure de la scolastique dans des cas, c'est le mot substance. Alors, c'est bien évident. C'est le mot substance. Et pensante va l'emporter. Alors, je vais mettre entre parenthèses. Et le cogito pris de cette manière-là va définir par le point de vue de la conscience. Le phénomène est joué. Vous avez donc la personne qui va se définir par la conscience. C'est ancien, puisque c'est Locke qu'il faut prendre. La personne, affirme Locke, est un être pensant, intelligent, qui est doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer comme lui-même la même chose pensante en différents lieux et temps, ce qu'il ne fait que par la conscience. Ce par quoi la personne est personne, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que c'est ce par quoi une chose pensante se considère comme la même à travers les différents lieux et temps. C'est ce par quoi, c'est ça qui est intéressant à voir, ce par quoi le cogito demeure, c'est la conscience. Ce qu'il ne fait que par la conscience, qui est inséparable de la pensée et qui, me semble-t-il, lui est essentiel. Donc ce qui est essentiel à la personne, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que ce qui constitue l'essence de la personne, c'est le cogito, c'est la pensée. Locke insiste sur le fait que dans l'identité personnelle, ce n'est pas la substance qui importe, dans l'identité personnelle, mais la conscience, car différentes substances peuvent, par la même conscience, être unis en une seule personne. Ça, c'est aussi très intéressant. Ce n'est pas la substance qui importe, la substance est laissée de côté, c'est la conscience. Car différentes substances peuvent, par la même conscience, être unies à une seule personne. L'identité personnelle dépend de la seule conscience. C'est lui qui dit ça. L'identité personnelle, la recherche de l'identité, hein. L'identité personnelle dépend de la seule conscience, que celle-ci soit annexée seulement à une unique substance individuelle ou qu'elle puisse continuer dans une succession de plusieurs substances. C'est donc la conscience qui est ce par quoi la personne est personne. Le constitutif formel de la personne, ça devient la conscience. De son côté, Berkeley dira que la personne est une chose consciente et que rien n'existe à proprement parler que des personnes. Toutes les autres choses ne sont pas tant des êtres des existences que des manières d'être des personnes. Donc c'est tout simplement montré, là on ramène la métaphysique à la conscience. L'existence, c'est la conscience. Vous n'existez, mais l'être pour soi. Vous avez ça. L'être pour soi, c'est la conscience. Et l'être pour soi est le seul être véritable. Tandis que l'être en soi, la distinction de l'être en soi et l'être pour soi, l'être en soi, c'est le manche à balai, hein, comme dit Sartre, selon cette magnifique définition. L'être en soi, c'est le manche à balai. C'est-à-dire, c'est rien. Hein. C'est la limite. C'est le manche à balai. C'est très bonne définition. Comparativement à l'être pour soi. L'être pour soi, c'est la conscience. C'est la conscience qui accueille l'être. Tandis que le manche à balai, non. Quand vous êtes accueilli par un manche à balai, vous savez ce que c'est. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à son tour Wolf dans sa psychologie rationnelle. Alors, Wolf, vous savez bien, Wolf, le dernier scolastique de la métaphysique, Wolf, la tête de Turc de Kant. N'oubliez pas, la tête de Turc de Kant, c'est Wolf. Et il ramène la métaphysique à la philosophie de Wolf. Donc Wolf joue un rôle très important de Suarez à Wolf, si on voulait ponctuer, de voir comment la métaphysique de Suarez est devenue la métaphysique de Wolf, et comment Kant est en face de Wolf, et alors il est boulé rouge, il va tirer sur Wolf. Alors je cite simplement ce point de vue-là parce qu'il me semble intéressant. À son tour, Wolf, dans sa psychologie rationnelle, définit la personne, ou individu moral, comme l'être qui garde mémoire de lui-même. C'est beau, hein? Voilà ce que c'est que la personne. L'être qui garde mémoire de lui-même, c'est-à-dire se souvient qu'il est le même être qui, auparavant, fut en telle ou telle époque. Vous vous êtes endormi, vous étiez avant éveillé. Le passage ou le lien entre être celui qui dort et celui qui est éveillé, voilà la personne. Ce petit noyau qui demeure de la personne, c'est l'être qui garde mémoire de lui-même. C'est la conscience psychologique la plus fondamentale. Cette mémoire intellectuelle consiste dans le jugement qui juge que nous avons déjà eu auparavant la même idée. Extraordinaire. Il n'est pas le même amour, mais la même idée. Wolf, cependant, reconnaît que la personne peut être dite substance vivante et intelligente. Parce que Wolf est évidemment, il s'unit à la métaphysique, il garde la métaphysique. Mais ce qu'il y a de vivant chez Wolf, ce n'est pas la substance. C'est la mémoire. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est de garder l'identité à travers des états différents. Je peux vous le dire, enfin, persona en latin, ça fait mieux. Hein? Parce que Wolf écrit en latin, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le dernier père latin. Dans la psychologia rationalis, c'est tellement admirable comme mot. Et ça demeurait, hein. On était psychologie rationnelle, encore à Fribourg, comme cours. Le père Leuthen faisait un cours de psychologie rationnelle. C'est admirable, psychologie rationnelle. Alors, voilà ce qu'il dit. Persona dicitur ens, quod memoriam sui conservat, orquest memini, se esse illud ens, quod ante inoc, vel illo fuit statu. Dicitur, merci. Individuum morale. Donc, dicitur etiam, individuum morale. Voilà, c'est l'individu moral. La personne, c'est l'individu moral. L'individu moral qui est capable de garder sa mémoire. Et commentant sa définition, Wolf se réfère au scolastique qui, dit-il, définissent la personne par le suppôt intelligent. Hein, depuis Suarez. C'est ça. Le suppôt intelligent. Je dis, il y a un lien très net entre Wolf et Suarez. c'est sûr. Alors le suppôt intelligent, capable de frapper à l'heure dite. Le suppôt intelligent, c'est la définition scolastique de la personne. Hein. Alors, définissent la personne par le suppôt intelligent, le suppôt par la substance singulière vivante. Si bien que dans la pensée des scolastiques, la notion de personne requiert qu'elle soit substance, qu'elle soit individu, qu'elle possède la vie, qu'elle soit douée d'intelligence. Si tu expliques cela distinctement, afin que quiconque comprenne ce que tu veux dire, et que tu n'accuses pas dans la définition des éléments se déterminant mutuellement comme le veulent les lois de la méthode, pour purifier la scolastique, alors la définition des scolastiques est réconciliable avec la nôtre. Très significatif. Je fais le point. Alors, il me joint là le point de vue de la scolastique, il se ramène uniquement à la mémoire de soi. Il n'aura plus que cela comme définition de la personne. Et vous voyez bien que c'est dans sa psychologie rationnelle qui définit la personne. Donc c'est déjà, la personne est définie déjà au niveau de la psychologie. Et au niveau de la psychologie, on ramène toute la métaphysique à la psychologie et on ramène la personne à cette identité au-delà des différents états.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles.